France Musique.
Charlie Chaplin ou le mythe de Charlot. Charlot, le petit homme, le petit vagabond, le petit être maladroit, naît de l'imaginaire de Charlie Chaplin en 1914. Une canne arrondie, des chaussures trop grandes, un pantalon trop large, une veste étriquée, une moustache bien dessinée et un maquillage blanc sur le visage. Chaplin prête son corps et son langage imaginaire à Charlot. Né le 16 avril 1889, dans un quartier pauvre de Londres, Charlie Chaplin passe sa jeunesse dans les rues miséreuses de Kennington Road. C'est donc dans un quartier pauvre du sud de Londres que le jeune Charlie Chaplin observe la misère sociale et l'alcoolisme qui ronge la population. Ses parents, Charles et Anna, sont artistes de musical, mais le père abandonne sa famille quand Charlie n'a que 3 ans. Débute alors les années noires et une vie d'enfant de la balle qui enchaîne des petits rôles au théâtre dans la pantomime. En 1908, à l'âge de 19 ans, il entre dans la troupe du mime Ted Camo en interprétant un ivrogne. Le public se reconnaît alors dans ce personnage et n'a Dieu que pour le jeune comédien et non plus la scène. Ce personnage d'ivrogne lui ouvre les portes du cinéma. Car quand la compagnie s'envole pour une tournée aux États-Unis, le producteur Max Sennett, le roi du cinéma burlesque et président des studios Keystone, découvre et engage Charlie Chaplin. C'est lui, Max Sennett, qui va demander au jeune Charlie de se changer dans une loge de figurant. Chaplin ressort alors en Charlot, le personnage le plus touchant du cinéma muet, un clochard aux attitudes de gentleman. Pour la première fois, un personnage pauvre, moqué pour ses maladresses, anti-héros, est le personnage central d'un film. Les aventures plus rocambolesques les unes que les autres vont toucher le nouveau monde. Charlot est le personnage qui représente les invisibles, les oubliés de la société, mais aussi les souvenirs de sa jeunesse londonienne. Le public du monde entier se reconnaît dans cet éternel marginal, néanmoins sentimental, qui ne craint pas de s'attaquer à plus fort que lui. Il réussit le but ultime du cinéma, faire rire et pleurer à la fois, et dans le monde entier, car le langage de Charlot est basé uniquement sur la gestuelle, donc le langage universel. Le monde de Chaplin et de son personnage Charlot est celui du muet. Charlie Chaplin passe maître dans l'art de la pantomime et reste un farouche opposant au parlant. Entre 1914 et 1917, Charlie Chaplin tourne une soixantaine de films autour du personnage de Charlot. Charlot boxeur, Le vagabond en 1915, Pompier en 1916 ou Policeman en 1917. À partir de 1915, sa nouvelle célébrité lui permet d'écrire et de réaliser ses premiers longs-métrages. Son ascension est fulgurante et dès 1916, il est l'acteur le mieux payé du monde. Il peut alors construire son propre studio et réalise 9 films, dont Une vie de chien, Le Kid et Charlot soldat. Pour parfaire le personnage de Charlot, le souligner, Charlie Chaplin introduit la musique dans ses films. Elle les structure et elle éclaire l'image au service de l'image. Chaplin aime raconter comment la musique a pénétré son âme pour la première fois. L'émotion est née en lui un soir, aux environs de minuit, alors qu'il se promenait enfant dans les rues de Kennington Cross. Deux musiciens jouent alors Honeysuckle and the Bee, à la clarinette et à l'harmonica. Ce soir-là, Chaplin prend conscience pour la première fois de ce qu'est une mélodie. Depuis l'âge de 16 ans, il joue du violon, du piano et du violoncelle, des instruments qu'il pratique d'oreille car il ne sait pas lire la musique. Il raconte même qu'il travaillait dans sa chambre 4 à 6 heures par jour, pensant devenir plus tard un artiste. Alors c'est dans ses films que la musique s'épanouit et s'unit au personnage de Charlot. Pour les films muets, les projections sont accompagnées par un orchestre dans la salle. Dès la fin des années 20, Chaplin n'hésite pas à composer lui-même ses partitions. Inspiré de Wagner, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov ou de chansons populaires. Alors il se met au piano et compose en chantonnant les futures mélodies de ses films. Les Lumières de la ville, en 1931, est son premier film où il utilise une bande-son qu'il a lui-même composée et quelques bruitages. « cette jeune fleuriste aveugle qui se repère grâce au toucher et surtout au son écrit dans le scénario, mais que l'on n'entend pas. C'est le début du passage au sonore. Pourtant, quel manifeste pour la défense du cinéma muet. Le bruitage se veut un pied de nez au parlant, et la création d'un langage imaginaire est la réponse de Chaplin au progrès technique du cinéma qui devient parlant dans les années 20. Le passage du muet au parlant s'opère en un peu plus d'un an pour la production cinématographique, quand pour Chaplin, il faut 3 films et presque 10 ans pour franchir cette étape. Il est conscient que son succès réside dans la gestuelle et il redoute ce cinéma qui donne le beau rôle au dialogue. Alors, il tourne la parole en dérision. Elle ne dit rien d'autre que sa propre forme. Il prend une voix nasillarde qui caricature les effets de l'enregistrement du vitaphone de l'époque. Chaplin reste dans la pantomime. Plus tard, dans les temps modernes, en 1936, Chaplin continue d'avoir recours au carton pour les dialogues, mais le film est musicalisé à 90%. Des intrusions de sons réalistes se font de plus en plus nombreuses, sons de machines, mais surtout, apparition de la voix. Chaplin parvient toutefois à délivrer un message social à travers les séquences de voix parlées. Charlot, qui travaille dans l'usine, agit pour Chaplin. Sans dessiner de solution sociale, il dénonce l'aliénation. La voix est alors le monopole du président de l'usine. Elle n'apparaît que quand le président est dans la situation de présider, dans la distance de ses employés. Elle est alors relayée par la téléphonie ou la télévision. Mais lorsque le président rentre dans l'atelier, il a la voix de tout le monde. Dans l'avant-dernière séquence de ce film, on entend pour la première fois la voix de Charlot chantant dans le restaurant.
Cette lettre du sédore, je noterai ce que ferai, je noterai si t'avorer, je la tout la til à toi.
En 1940, alors que l'Amérique reste stoïque face à la montée du nazisme en Allemagne, son amitié avec Albert Einstein, intellectuel juif, lui porte préjudice. Il refuse de se justifier sur ses origines. Par son anticonformisme, Charlie Chaplin dérange et est mis sur écoute par le FBI pendant de nombreuses années. Une surveillance qui s'accroît lors de la chasse aux sorcières, où les communistes sont traqués aux États-Unis. Dans ce contexte de guerre froide, Charlie Chaplin est même soupçonné de communisme, lui, le propriétaire de studio à la fortune colossale. Chaplin renonce peu à peu au carton du muet, mais il ne parvient à renoncer totalement au langage de la pantomime. Le film Le Dictateur opère néanmoins la rupture. Chaplin abandonne son personnage de Charlot, connu et adulé dans le monde entier depuis un quart de siècle, pour prendre les traits d'un barbier juif. Rupture également avec le cinéma muet, car Le Dictateur est le premier film parlant de Chaplin. Pour la première fois, le scénario est entièrement rédigé avant le tournage. Choisir le personnage d'Hitler, dont la principale force était dans ses talents d'orateur, permet à Chaplin de sauter le pas du cinéma muet vers le cinéma parlant. Pour la première fois, l'histoire est plus grande que le petit vagabond. Le clou du film est son fameux discours final. Plus de 6 minutes, un tour de force sur le plan technique. Mais à ce moment-là, le barbier laisse la place à Charlie Chaplin lui-même. Sous la pression des événements du monde, il signe un véritable acte politique.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
Alors, quand le dictateur joue avec une map monde, cette ultime pantomime ne nous dit-elle pas déjà tout des intentions d'Hitler ? Ce langage silencieux est-il donc plus fort que celui des mots ? Aujourd'hui, le vagabond est mort et les mots parlent sans doute trop fort.
À réécouter sur francemusique.fr.